C'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûre de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve pour un nouvel épisode de Secret livré aujourd'hui, votre émission historique et littéraire sur Radio Campus Paris. Ce soir, on va parler d'un roman. Un roman sur l'amour, un roman sur les contraintes, un roman sur les impératifs de la société contraignante. Alors me direz-vous, ça ne nous avance pas beaucoup, mais si je vous dis qu'on va parler d'un roman écrit par une femme appartenant à la haute société new-yorkaise à la fin du 19e siècle, qui a reçu le prix Pulitzer en 1921, pour l'œuvre qu'on va présenter aujourd'hui, alors peut-être vous avez une idée. Il s'agit d'un de mes romans préférés et il s'intitule The Age of Innocence, en français tout simplement L'Âge de l'Innocence. Il a été écrit et publié par Edith Wharton en 1920. On y découvre les hauts et les bas des mondanités américaines au tournant du siècle, mais ne vous y trompez pas, bien que le roman soit paru dans les années 20, on n'est pas chez Gatsby. Wharton tourne son regard vers le passé, un passé en voie de disparition, et c'est la société dans laquelle elle a grandi, ses codes, ses rois et ses reines, tout cela qui s'effrite après la Première Guerre mondiale. Les personnages que l'on suit vivent en fait à la fin du 19e siècle, notamment dans les années 1870, à New York donc, dans un drôle de microcosme dont je vous parlerai dans quelques instants. L'histoire, en résumé, c'est celle d'un triangle amoureux insolvable entre Newland Archer, je vais tout dire en français, May Welland et Helen Olenska. Les deux femmes sont cousines, monsieur est promis à May mais tombe amoureux de Helen et tout le monde finit malheureux. On va voir pourquoi et on va voir comment. Alors pour parler de cette œuvre, j'accueille dans les studios aujourd'hui Louise Perroche, qui est diplômée d'études de lettres et traductrice littéraire, qui a lu le roman, qui a vu le film, comme je le lui ai demandé, et qui se prête aujourd'hui généreusement à l'exercice de parler d'une œuvre qu'elle aime, ici dans Secret livré. Bonjour Louise.
Bonjour Claire.
Bienvenue dans Secret livré.
Merci.
Et merci d'être venue parler de The Age of Innocence. Est-ce qu'en avant-propos, tu as trois mots d'introduction sur le roman ?
Sur le roman, déjà je l'ai beaucoup aimé, donc
c'est déjà une bonne chose.
Donc c'est bien. Moi, il m'a beaucoup plu, il m'a rappelé plein de choses. Je l'ai trouvé très riche, très drôle. Je m'attendais pas nécessairement à ce que ce soit drôle, mais c'est mordant, c'est génial.
C'est génial, je suis bien d'accord et je suis bien ravie de mon choix du coup. Alors, il est l'heure maintenant de pénétrer dans ce monde mystérieux, ce monde que j'évoquais il y a quelques instants, le drôle de monde d'Edith Wharton, le drôle de monde du roman. Edith Wharton, née Edith Newbold Jones, voit le jour à New York donc en 1862. Si vous avez écouté la dernière émission de Secret livré, vous vous en souvenez, c'est en plein pendant la guerre de sécession américaine, cette guerre qui déchire le pays selon une ligne de séparation entre Nord et Sud. La guerre s'achève 3 ans après la naissance de Wharton, en 1865 donc, alors qu'elle est encore enfant. Elle n'est pas assez grande pour s'apercevoir du traumatisme qui prend forme pendant ces années, et de surcroît, en tant que New-Yorkaise riche et puissante, elle n'en subit pas vraiment les séquelles. Mais le monde ne se soucie guère des ressentis d'Edith Wharton et le monde change. La société post-guerre civile s'engage dans un grand projet, la modernisation. Ouste les vieilleries, ouste les lampes à huile, ouste tout ce qui pue l'ancien temps et que ça saute. Le sud-américain, on l'a vu, refroidi par des années de conflits et surtout la défaite qui les a conclus, se montre tout sauf enthousiaste. Mais contraint par les États du Nord et par le pouvoir fédéral qui, au passage, s'impose de plus en plus par rapport aux pouvoirs régionaux, le Sud eh bien, se plie finalement, comme tout le monde, au nouvel ordre. Au Nord, à l'inverse, pas besoin de se forcer, personne ne boude son plaisir moderne. Et s'il y a une ville qui incarne cette course vers l'avant mieux que toute autre, eh bien, c'est bien New York. À New York, en 1879, Thomas Edison invente l'ampoule incandescente, petit bijou de technologie qui révolutionne l'espace public et privé. L'électricité existait avant lui, c'est vrai, mais il permet à lui seul aux Américains d'en faire un usage domestique, ce qui était jusque-là tout à fait impensable. Un an plus tard, en 1880, il installe son laboratoire à New York sur Pearl Street et crée la société Edison Illuminating Company. Par la suite, des kilomètres carrés entiers sont éclairés par cette belle invention. On y trouve principalement des entreprises, comme par exemple la banque Drexel Morgan & Company, ainsi que le Stock Exchange, la Bourse de New York, vous la connaissez, et les locaux du New York Herald. Dès 1892, l'électricité supplante le gaz comme source d'énergie dans la ville. Super ! Mais il y a certaines personnes que ce progrès ne ravit pas. Dans Le Petit Prince, vous vous souvenez, la plus petite planète est habitée par un allumeur de réverbères.
Bonjour, je fais là un métier terrible. Autrefois, c'était raisonnable. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer, le reste de la nuit pour dormir.
Eh bien, les allumeurs de réverbères new-yorkais, eux, connaissent un sort encore plus triste que lui, qui ne peut pas se reposer pendant ces journées qui ne durent qu'une minute. Et oui, eux sont remerciés, merci, bonsoir, et rentrez chez vous, vous êtes au chômage. Cet exemple, quoique anecdotique, illustre bien la disparité croissante au cœur de la société américaine moderne. Le romancier Mark Twain appelle cette période « The Gilded Age ». En français, « Gilded » est un peu difficile à traduire, puisque l'expression officielle est « l'âge d'or », mais comme le soulignent de nombreux historiens et historiennes, « Gilded » a ce sens de patine plutôt, de vernis doré, plus que d'or véritable. C'est un vernis qui ne brille qu'à une certaine distance, sous une certaine lumière. Et surtout, surtout, le vernis a cette capacité à s'effriter que l'or n'a pas. Le Gilded Age est marqué par de profondes inégalités qui, en fait, affaiblissent la société américaine tout entière. Vous vous rappelez peut-être, dans l'émission sur Madame Bovary, dans Secret Livré, je vous parlais de la France du 19e qui se transforme radicalement, et surtout sur une période assez courte. D'une nation principalement agricole, elle devient surtout industrielle et ouvrière. Les mouvements migratoires de population, surtout depuis les campagnes et vers les villes, ont pour effet de concentrer beaucoup de main-d'œuvre dans très peu d'endroits, en très peu de temps. Et une des conséquences de cette concentration, eh bien, c'est la dérégularisation du marché de l'emploi. Eh bien, sans surprise, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences outre-Atlantique. Avant, disons avant l'industrialisation des États-Unis, vers 1880, les productions étaient régionales. L'artisanat avait encore un sens. En gros, si vous vouliez une paire de chaussures, vous alliez voir Michel, le cordonnier du coin. Mais le développement de la voie ferrée, qui, vous le savez, est souvent brandi comme étendard de la modernité américaine, permet de déplacer les marchandises et les hommes. En 1880, il est donc estimé que 2 tonnes de biens à la consommation sont acheminées depuis les centres de production vers le reste du pays où les gens, eh bien, les consomment. Cela concerne l'acier, par exemple, l'huile raffinée, les denrées agricoles, le charbon, le cuivre, etc., etc., autant de domaines dans lesquels beaucoup de gens ont fait fortune. Les ouvriers s'entassent désormais dans les villes et apparaissent les premiers slums à proprement parler. Vous savez, ce sont ces quartiers d'une pauvreté inimaginable où vivent les plus miséreux de la société américaine. Et ces miséreux, ils commencent à être très nombreux. Et n'oublions pas qu'en 1892, Ellis Island ouvre ses portes à une immense vague d'immigration ouvrière venue d'Europe. Ce phénomène achève de surpeupler les centres urbains et, au passage, alimente un racisme parfois extrêmement violent envers les immigrés. Et pourtant, tout cela tombe sous la bannière du progrès. Et le progrès est au cœur de l'identité américaine. Dans l'imaginaire commun national, le progrès est perçu comme un instrument divin, tout simplement. Dieu s'en sert pour façonner une société meilleure. Elle est donc à la fois pratique et idéologique. Cela fait écho, bien sûr, à des concepts qu'on a évoqués déjà dans cette émission, par exemple la destinée manifeste et ses dérivés comme le rêve américain, qui s'accordent tous sur une chose, les habitants de cette nation ont été choisis et se hissent au-dessus de la masse par leur travail et par leur détermination. Alors on l'a déjà souligné, mais cette idée de détermination et de libre arbitre a tendance finalement à effacer le prérequis au succès, qui est largement financier et qui accompagne l'accomplissement du rêve américain. En gros, naître riche, c'est quand même bien plus pratique pour le rester. Et dans cette fin de siècle, puis pendant tout le début du XXe qui lui succède, l'Amérique se pare finalement d'une toute nouvelle classe de notables, d'une toute nouvelle aristocratie, dont le pédigré est basé sur, donc, l'argent. Les rouages du mécanisme sont assez clairs, le pays sort d'une guerre dévastatrice et se met en branle avec une nouvelle économie de production vers la modernisation à tout craint. Grâce à un marché de l'emploi tout à fait libre de règles, on autorise l'émergence d'une classe d'Américains extrêmement riche qui devient la noblesse moderne. Libres de justifier leur succès par la notion de progrès, soutenus donc par Dieu, ils ont alors les mains libres pour continuer d'accumuler pécule et pouvoir, pouvoir et pécule, etc., etc., jusqu'à la fin des temps. Tout cet argent est accumulé et une large partie de cet argent est dépensée, évidemment, puisqu'il faut que ça se sache. En gros, on est dans une société de l'ostentation. Le but d'avoir de l'argent, c'est de le montrer. Une des plus grandes familles new-yorkaises de l'époque est le couple Vanderbilt. William a fait fortune dans l'exploitation des voies ferrées et son épouse Alva est une des plus grandes notables de la ville, évidemment. Ils possèdent ensemble une immense demeure, surnommée humblement le Petit Château. Ça vous donne une idée. Et ce château est situé sur la 5e avenue au beau milieu de Manhattan. Un des bals les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, oui, carrément, fut donné dans cette maison et c'était en mars 1883. Le nombre de convives environne le millier et le prix de la soirée, 3 millions de dollars.
She gives them very detailed instructions as to what kind of decor the house has, what it's made of, who the artists are. All the details that she thinks will impress people.
Ce qui m'a le plus marqué finalement dans cette histoire, c'est la couverture médiatique de l'événement. Dans le New York Times, Alva, qui est une filoute, fait diffuser des semaines à l'avance de quoi faire saliver le pays tout entier. Le but, c'est que tout le monde veuille venir et aussi un peu que tout le monde ne puisse pas. Un des titres qui sort dans la presse est « The Vanderbilt Ball, the amount of wealth to be displayed ». En gros, en français, le bal des Vanderbilt et toute la richesse que vous pourrez y voir. Aucune retenue, aucune humilité, non, évidemment, le frisson vient de l'opulence démesurée. Le bal est un immense succès et un qui réconcilie enfin l'ancienne aristocratie avec la nouvelle. Je m'explique. Auparavant, c'était la grande Caroline Astor qui régnait sur la ville. Sa parole était d'or, ses recommandations des ordres et ses goûts des évidences. En gros, elle était la Anna Wintour de l'époque, mais son influence était encore plus interdisciplinaire. Astor était de la vraie haute, comprenez, la vieille haute, avec des héritages et des traditions. Et Caroline Astor n'aimait pas les Vanderbilt. William, à ses yeux, était une sorte de vulgaire plouc limite nouveau riche sans élégance, et Alva, tout droit venue d'Alabama, Burke, une petite parvenue ambitieuse. Et quand Caroline Astor ne vous aime pas, eh bien, dommage pour vous, cela devient affaire publique. En gros, le système n'est pas un non-dit, le système est très codifié. Astor s'assure que l'on suive ses prescriptions et met en place une liste, la liste des 400, qui détermine, genre liste VIP pour entrer en boîte, qui sont les 400 familles les plus populaires de New York. Alva veut rentrer sur cette liste, c'est évident. Et après son bal, la vieille Astor ravale ses vilaines paroles et admet d'un ton magnanime « Nous n'avons aucun droit d'exclure ceux dont la croissance de cette grande nation a poussé sur le devant de la scène. L'époque des Vanderbilt est arrivée. » Alors évidemment, difficile de ne pas sourire en lisant cela. Bien sûr, quand Alva divorce de son bon William, qui a beaucoup de maîtresses mais aucun talent pour les cacher, Caroline Astor répudie l'ex-épouse aussi vite qu'elle l'a gracieusement acceptée dans son cercle très fermé. Comme quoi finalement, peut-être n'était-ce pas entièrement personnel. Et cela m'amène à parler des conventions sociales, je vous le disais, bien présentes à l'époque. Et oui, car la société new-yorkaise en est pleine et cela se retrouve dans le roman de Wharton. Pour entrer dans la danse des mondanités, au sens figuré, eh bien, il faut y entrer au sens propre. Comprenez, il faut aller danser au bal. J'ai donc évoqué le célèbre bal des Vanderbilt, au coût astronomique, mais à l'effet indiscutable en termes de promotion sociale. Bien que celui-ci soit une exception, par sa démesure, il est seulement l'une des très nombreuses réceptions données à l'époque où le gratin new-yorkais se retrouve pour s'admirer et pour s'épier. Une tradition qui a marqué l'histoire, et qui d'ailleurs perdure encore aujourd'hui dans certains milieux, c'est le bal dit des débutantes. Sorte de rite de passage pour les jeunes femmes de bonne famille, il incarne les conventions du siècle, l'extraordinaire sens de la mode des familles riches, mais surtout la pression mise sur les épaules des jeunes femmes. L'histoire du bal des débutantes trouve son origine au Royaume-Uni. Au XVIIIe siècle, un siècle avant donc, cette célébration était l'occasion à l'époque de déguiser le marché du mariage en explosion festive. En gros, les jeunes femmes étaient présentées au monde pour y être remarquées et admirées, certes, mais surtout en tant que trophée et potentielle épouse d'eux. Rien de bien neuf finalement, mais la longévité et l'exportation de cette tradition est assez étonnante. Tandis que la société américaine se vantait de couper les ponts avec l'antique système nobiliaire européen, il travaillait en secret à le maintenir en place. À cette chose près, on l'a dit que les jeunes femmes éligibles l'étaient souvent plus grâce à leur argent qu'à leur ascendance.
Ce soir, je serai elle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, la soir où je serai la plus belle, la plus belle. Aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Alors, j'ai évoqué dans cette partie la société new-yorkaise avec ses bals des débutantes, une vieille tradition britannique. Déjà, pourquoi est-ce que tu penses, enfin, tu n'es pas spécialiste, mais il y a beaucoup d'écho à ce genre de choses et à la figure de la femme en tant que débutante. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette espèce de femme qu'on construit pour les autres ?
Bah moi, en lisant à la fois le roman et puis ce que tu en disais là, moi, ça me rappelle beaucoup Tolstoï, en fait. Je crois que c'est dans Guerre et Paix ou dans Anna Karenine, je ne sais plus. Je crois que c'est dans Guerre et Paix. Notamment qu'il y a un passage comme ça avec deux figures féminines qui sont au même bal. La femme très belle, qui est déjà mariée, qui est déjà installée dans le monde, etc. Et la toute jeune femme, la toute jeune fille presque, qui commence à peine à sortir, à être vue, à être, enfin, la débutante, quoi. Et il y a un passage qui est très beau, qui parle de ça. Et en fait, ça décrit cette femme déjà un petit peu mûre. Ben voilà. Doit avoir 30 ans, hein, mais c'est autant dire que c'est une antiquité, qui est toujours très très belle. Et elle est décrite vraiment comme une statue, parce qu'elle est, donc ses épaules sont découvertes, elle est décolletée, et ses épaules sont comparées à une statue dont le marbre aurait été patiné, poli par tous les regards qui ont glissé sur elle, tous les regards qui ont tous les hommes et toutes les femmes qui l'ont contemplée, quoi. Et c'est mis en opposition avec cette jeune fille, cette petite débutante qui, elle, se retrouve comme décolletée pour la première fois et qui trouve ça très désagréable, quoi. Et je trouve que ce que tu disais sur la femme objectifiée, c'est exactement ça. Là, c'est vraiment... c'est une statue, quoi. Donc, elle est sculpturale. En anglais, on dirait statuesque. C'est vraiment ça. C'est un trophée. C'est... on l'exhibe et elle est là pour être regardée, et le regard des autres finalement les rôde, quoi. Donc ouais, moi ça m'évoque ça m'a pas mal évoqué Tolstoï. Bon, après c'est tous les salons, tout ce le monde en fait qui est décrit par Tolstoï merveilleusement bien. Puis c'est vrai que c'est la même époque aussi, fin du 19e, début 20e.
Donc quoi, c'est pas propre à New York.
Ah non, c'est pas propre à New York, pas du tout. Bah, je pense que c'était très européen, très vieille Europe. Et puis, New York essayait aussi de s'affranchir de ces codes-là tout en étant originaire, en fait. Donc,
oui, c'est ça, il y a un rapport aussi toujours hyper paradoxal entre les États-Unis et le vieux continent.
Complètement.
Ouais. Voulant s'en détacher après la guerre d'indépendance, brillamment gagnée. C'est vraiment ous le vieux, on est américain. Et au final, bon, évidemment, on ne coupe pas de ses ancêtres si facilement que ça. Et en fait, on retrouve des tas de choses similaires. Et c'est assez marrant, finalement, de voir qu'en voulant avoir de l'avance, ils ont limite du retard sur les traditions.
Ouais, complètement.
Enfin, chronologiquement, en tout cas. Et c'est marrant, pour revenir sur... Enfin, c'est pas marrant, mais... Cette tradition des balles des débutantes, je disais que c'était une façon de rendre le marché du mariage festif.
Oui,
alors qu'en fait, c'est un marché à bestiaux presque.
Ouais, ouais, ouais.
Où pour surcompenser le fait qu'on objectifie à ce point les femmes, on les rend le plus belles possible. C'est vraiment tout ce qui brille, quoi.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça fait presque un peu penser d'une manière, on va dire, moins ostentatoire, moins gilded, ça fait presque penser à tout ce qui est rallye dans la bourgeoisie française, où en fait on fait se rencontrer les jeunes gens très jeunes justement.
Oui.
Ils font des activités ensemble, ils apprennent le rock'n'roll, ce genre de choses, pour augmenter les chances qu'ils se marient entre eux.
Bien sûr,
en fait.
Oui. Voilà. Oui, la reproduction sociale, tout à fait.
Voilà, et donc quand tu es jeune et que tu n'as pas forcément ces codes-là, tu te dis « Ah, c'est cool, c'est pour se faire des amis ». Oui, oui, des amis, oui.
Non, ce n'est pas pour se faire des amis. Non. Et c'est marrant, je pensais à... Je ne sais plus, alors j'ai lu une anecdote justement en préparant l'émission, mais c'était quelqu'un dans la société, donc new-yorkaise de l'époque, pour le coup, qui était très, très bien placé, puis ensuite qui a perdu son statut. Ah, bah c'est Alva Vanderbilt, dont je disais qu'elle avait donc divorcé de William, le richissime exploitant des voies ferrées. Et en gros, donc elle se fait bouder par tout le monde, elle se fait à nouveau snobber. Caroline Astor est à nouveau en train de dire que c'est du poisson pourri. Et Alva, qui est vraiment tout sauf bête, réussit à marier sa fille avec une sorte de... Bon, alors prince ou duc, peut-être un duc européen, je sais plus, peut-être britannique. Je sais, oui, il est britannique. Et en gros, elle fait venir ce duc et ce duc arrive sur le territoire et donc elle est à nouveau in. Elle est à nouveau totalement notable. Et c'est marrant parce que la fille, bon, évidemment, elle a rien eu à dire, quoi.
Non. Ouais. Mais là, c'est un peu pareil dans le roman finalement parce que, enfin, pas exactement pareil, mais elle part, Helen Mingott, et elle revient, Helen comtesse Olenska et voilà, mariée à un comte du vieux continent. Et ils n'arrêtent pas de lui dire « Ah, mais vous devez bien vous ennuyer ici par rapport à Paris, par rapport à l'Europe, etc. » Et d'ailleurs, elle finit par se carapater et repartir en Europe parce qu'elle s'emmerde.
c'est ça qui est amusant aussi, c'est que, pour revenir, je crois qu'on en parlera plus tard, mais ce rapport paradoxal avec l'Europe, justement, c'est de la jalousie.
Ouais.
Et en même temps, une espèce de fierté de « Ben non, nous, on est différents. » Enfin, c'est un peu bizarre.
Il y a
toujours ce... j'en parlerai un petit peu après, mais... Edith Wharton est partie en Europe pour faire ses études. Ça faisait partie du grand faste de l'époque. Plus on allait en Europe sans être européen, et plus on était un chouette américain. C'était vraiment en être sans en être. Il fallait prendre toute la culture européenne tout en restant résolument américain. Et là, on était vraiment au top de l'échelle sociale.
La crème de la crème.
Et c'est quand même assez cocasse comme vision de l'identité, quoi.
Ouais.
Comment fracturer.
Mais finalement, je pense que c'est aussi une vision fracturée parce que leur identité est fracturée. Ils sont partis d'un continent pour s'installer sur un autre, mais tout en restant... c'était encore très récent, quoi. C'est une question de quelques générations. Ils étaient britanniques, hollandais, allemands, que sais-je, quoi. Et donc, du coup, c'est une attitude qui est fracturée, qui est étrange, parce que leur identité, de fait, elle est fracturée.
Oui,
elle est bancale. Enfin, bancale, c'est pas un jugement de valeur, hein. Mais
il y a une fissure, bien sûr, et puis un désir de toujours s'affranchir tout en ne pouvant pas, évidemment.
C'est ça.
Et pour revenir sur l'image des débutantes, il y a d'autres romans qui en parlent et d'autres œuvres, évidemment. Et celle qui nous a frappé toutes les deux, c'était Pride and Prejudice.
Oui, bien sûr.
Où c'est marrant parce que chaque fille de la famille incarne une attitude différente.
Oui, oui.
Je sais pas ce dont tu te souviens de ce. Bah voilà, des filles Bennett. Je crois que c'est Elisabeth qui marque le plus parce qu'elle, elle est vraiment. Elle refuse.
Oui, c'est ça, elle est en opposition. Alors que, oui, alors que sa grande sœur, le nom m'échappe, mais sa grande sœur qui est très belle, oui, très sage, tout de suite, on tombe amoureux d'elle, elle trouve chaussures à son pied, et puis la petite sœur qui, elle, est complètement en rêve, quoi, et finit par faire... Ouais, elle le fantasme tellement qu'elle fait n'importe quoi. Par la suite,
elle perd les pédales.
Ça finit très mal. Mais oui, c'est ça, elles ont toutes une espèce de... C'est comme s'il y avait deux extrêmes, et puis avec Elisabeth au milieu, qui s'en affranchit tout en jouant les règles...
Oui.
En suivant les règles du jeu suffisamment pour être accepté, quoi.
Oui, c'est ça. Et c'est marrant parce que je pensais, en préparant l'émission, justement, je me disais, est-ce qu'il y a un parallèle vraiment entre Elisabeth Bennet et Hélène Olenska? Et en fait, je pense pas qu'il soit possible de le tracer parce que, déjà, bon, pays différent, donc héritage différent. Et en plus, justement, Hélène, elle a ce côté d'identité américaine qui est beaucoup moins monolithique que Elisabeth Bennet et Elisabeth. Oui. Juste, elle s'oppose frontalement. Je veux pas être vue comme... Bon, en plus, elle est vue comme un peu une plouque. Les Bennet, ils sont pauvres.
Oui.
Hélène Olenska, elle vient d'une grande famille.
Ouais.
Mais en plus, Elisabeth, elle est juste frontale et monolithique, voilà. Et Hélène, elle a tout ce côté... je veux quand même pas froisser... Oui.
Elle veut s'intégrer. En même temps, elle est... elle manque de code, quelque part. Elle n'a pas les codes. Oui. Tu disais que là, c'était une société qui était extrêmement codifiée. Ça se voit très bien dans le roman. Quand ils discutent... En fait, quand Newland discute avec May, donc sa fiancée, ils ne se parlent pas.
Oui, il n'y a aucun contenu.
Ils ne se disent rien parce qu'il n'y a rien besoin de dire, parce qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire et que du coup, ils sont en accord parfait. Et au début, c'est ça qu'il aime chez elle. Il trouve que c'est merveilleux il le formule comme on se comprend sans se parler. Et après, à partir du moment où il rencontre la comtesse Olenska et qu'il commence à y avoir
Anguille sous roche,
d'un seul coup, il est là, mais.
Oui.
Mais on n'a rien à se dire. En fait, il le voit différemment, mais il décrit la même chose. Il décrit cette espèce de. Ils ont tellement intégré les codes de leur société qu'il n'y a rien à dire.
Oui, il n'y a plus rien à dire.
Ils se comprennent parfaitement.
Tout a été fait,
oui. Ils se comprennent parfaitement et il n'y a rien à dire.
Et parlant des codes donc, de cette société, ça me fait penser à. Donc le film. Le livre a été adapté en film par Scorsese. Je ne sais plus l'année exactement.
Je sais pas trop.
Le début est une très bonne illustration de comment la société fonctionne. Scorsese évidemment donc adapte à l'écran tout ce qui est écrit, donc évidemment il choisit des images frappantes. Et il y a l'image frappante de l'opéra où les gens vont pour regarder et être vus.
Bien sûr.
Quelque chose qu'on apprend au collège, il me semble, quand on dit le théâtre, c'est un lieu social autant qu'il est culturel et artistique. Et moi, cette scène m'a frappée. Qu'est-ce que t'as...
Je trouve que c'est incroyable parce que le roman commence là-dessus, le film commence là-dessus, c'est littéralement de la mise en scène. C'est-à-dire que voilà, on t'explique qui est sur scène. Qui chante dans le livre, on t'explique, dans le film, on te le dit pas comme ça, mais dans le livre, on te dit voilà, c'était une cantatrice suédoise, et c'est vraiment de la mise en scène, quoi. Et après, de la scène, on part et on élargit pour arriver jusqu'à la salle, et tout le jeu, on s'observe, et Archer, Newland Archer, il arrive et il se met en scène lui-même, c'est-à-dire qu'il sait exactement le moment où il veut arriver. Pour ressentir les choses qu'il faut ressentir. Et donc, du coup, il attend une certaine réplique de la chanteuse, de la cantatrice, pour pouvoir entrer et regarder sur la loge de la famille de sa fiancée pour ressentir toutes les choses, parce qu'il est là, voilà, c'est parfait, elle a les fleurs que je lui ai données, parce qu'on vient de se fiancer, etc. Et c'est vraiment une mise en scène de sa mise en scène.
Oui, ça donne le ton du roman, finalement, et du film, forcément. Ça commence par une scène, et on comprend que le monde est une scène, sans vouloir faire de vieux jeux de mots.
C'est Shakespeare, non, c'est ça, Joël.
Oui, exactement. Non, mais c'est ça, en fait. C'est qu'on nous montre, dès le début, on nous dit, attention, rien n'est vrai.
Ouais, c'est
on commence par ça, mais on va continuer là-dessus, en fait. Quand ça explose, ça fait du mal.
Secret livré.
Alors maintenant que nous avons parlé de l'époque, parlons un petit peu de la femme et parlons un petit peu de l'œuvre. Edith Newbold Jones naît donc à New York en 1862. Elle devient par la suite romancière, nouvelliste, poète et essayiste, et l'autrice de ce formidable roman, donc The Age of Innocence. Dans le livre, elle évoque donc les affres de la haute société new-yorkaise que nous avons évoquées en première partie d'émission. Et ce monde, elle le décrit avec un réalisme frappant. Et pour cause, ce milieu, eh bien, c'est le sien. Edith grandit dans l'une des familles les plus riches et célèbres de New York. Pour vous donner une idée, il est utile, je pense, de s'intéresser un peu aux Kardashians. Si vous ne connaissez pas, en gros, il s'agit d'une famille, elle aussi riche et célèbre, américaine. 5 sœurs et un frère, et la mère qui manage tout ce petit monde depuis les collines de Los Angeles, à des fins publicitaires surtout, qui marchent très bien. Ce sont principalement les sœurs qui ont un business, l'une est par exemple mannequin, l'autre a monté une émission de perte de poids, et une autre encore, la plus célèbre peut-être, Kim a épousé Kanye West et vit sa vie en tant que Kim Kardashian West. C'est d'ailleurs la grande blague, elle n'a aucun talent spécifique, sinon sa beauté, et pourtant, elle a une influence qui dépasse parfois l'entendement, bref. Et donc, cette famille est devenue célèbre notamment grâce à une émission de télé-réalité qui les filme en continu et qui s'appelle Keeping Up with the Kardashians, surnommée affectueusement KUWTK. En français, comme toujours, ça sonne un peu moins bien, mais en gros, ça veut dire tout sur les Kardashians ou encore rester à la page avec les Kardashians. L'émission a un objectif, un seul, permettre à la plèbe de se tenir informée sur les faits et gestes de la famille. Alors ceux qui crachent sur le concept ont bien sûr raison. Les quantités astronomiques d'argent déboursées pour entretenir une image seraient sans doute mieux employées à d'autres causes, n'importe laquelle. Mais c'est sous-estimer le désir, un peu honteux et pourtant presque universel, d'observer des modes de vie loin, loin, loin d'une autre, si possible dans le faste, parce que le surplus d'argent fascine autant qu'il dégoûte. Bon, et le rapport avec Edith dans tout ça ? Eh bien, la famille du côté de son père s'appelle Jones. Au pluriel, les Joneses, du coup, ont fait fortune dans l'immobilier et ont marié une de leurs filles à John Mason, le fondateur de la Chemical Bank, une des plus grandes banques new-yorkaises. Beaucoup de sous donc et un train de vie délirant. Rappelez-vous, on est à une époque où faire partie de la liste des 400, décidée par Caroline Astor, c'est le nec plus ultra social. Les apparences comptent, le statut d'une famille est absolument crucial. On se regarde les uns les autres, et surtout, on se compare, on essaie de rester au niveau. Les Joneses incarnent ce niveau, la vie qu'il faut mener, les choses qu'il faut acheter, etc., etc. Ils sont la norme haute. C'est ainsi donc que naît l'expression « Keeping up with the Joneses », qui a donc sans doute inspiré les créateurs de l'émission sur les Kardashians. Preuve que finalement, rien n'a fondamentalement changé. C'est donc dans ce monde bien particulier, très privilégié, que grandit la petite Edith. Et c'est ce qui lui permettra de le décrire aussi bien. Alors à l'époque, on l'a dit, le top, c'est de ne pas rester en ville trop longtemps. S'enterrer à Manhattan, berk, laissons cela au plouc. Alors elle fait ce que les Britanniques faisaient bien avant elle, une sorte de ground tour. C'est un nom donné finalement à un voyage en Europe destiné à éduquer et à apprendre plein de langues aux jeunes Américains pour qu'ils reviennent encore plus stylés sur la côte. Quand elle revient, elle, elle a 12 ans. Elle parle donc français, italien, allemand et donc anglais. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que son premier travail publié était en fait une traduction, celle d'un poème allemand, Was die Steine Erzalen. Je suis désolée.
Was die Steine Erzalen.
Voilà. Pour lequel elle emporte la rondelette somme de $50. Alors j'ai essayé de calculer via un site ce que ça représentait aujourd'hui, mais j'ai obtenu les chiffres aberrants de $1,300 contemporains, ce qui me semble impossible. Mais bon, imaginez, c'est une somme. Malheureusement, quand vous éduquez une jeune femme comme Edith, il devient moins commode d'en faire un parfait petit produit transactionnel. Edith lit beaucoup, Edith observe très bien, et Edith n'a pas la moindre intention d'adopter l'étiquette de débutante dont je vous parlais plus tôt. D'ailleurs, chacune d'entre elles, c'est-à-dire des débutantes, a un bal spécifique destiné à la présenter donc à la société new-yorkaise. Celui d'Edith est un fiasco. Il a lieu en 1879, elle a 17 ans. Loin de la nuit rêvée que fantasment beaucoup de jeunes femmes, Edith décrit la soirée en ces termes, je cite « C'était une longue et froide agonie de timidité ». Ça rappelle certaines boums de lycée. Alors d'ores et déjà se profile l'aversion de l'écrivaine pour les conventions forcées et la rectitude d'un amusement contenu et réglementé. Hélas, on n'échappe pas aussi facilement à sa famille. La mère d'Edith, Lucretia, drôle de nom, insiste pour que sa fille prenne Marie et devienne évidemment quelqu'un. Lucrezia est d'ailleurs, selon Edith, une femme froide, calculatrice, indolente, désapprobatrice et sarcastique. Dans le guide de la maman parfaite, elle est donc dans la section « Les erreurs à éviter ». 6 ans plus tard, le rêve de Lucrezia se réalise enfin. En 1885, Edith trouve Edward, dit Teddy Robbins Wharton. Il a 12 ans de plus qu'elle, il appartient à la haute société bostonienne. Les époux prennent leur logement au 884 Park Avenue dans New York, mais s'accordent de longues périodes de voyage vers l'Europe entre les mois de février et de juin, entre 1886 et 1897. Petit fun fact à ce sujet, Edith Wharton a donc, au cours de sa vie, traversé l'Atlantique plus de 60 fois. Alors, vous pouvez compter chez vous, je suis pratiquement sûre qu'elle vous bat. Enfin, passons rapidement sur le mariage à Teddy Wharton. Il est malheureux. Monsieur souffre de troubles dépressifs, madame souffre de cette souffrance, et bien sûr, en plus, le quotidien n'est pas particulièrement enthousiasmant pour une femme de à l'époque. Après, quand même, 28 ans de mariage, on salue l'effort. Ils divorcent en 1913 et Edith part vivre à Paris, au 53 rue de Varennes, précisément dans le 7e arrondissement. 1913, on est donc à la veille de la Première Guerre mondiale, qui touche Paris bien sûr bien plus qu'elle ne touche l'Amérique. Mais Edith ne rentre pas au bercail pour autant. Au contraire, elle s'engage en France tandis que d'autres fuient la guerre. Elle aide les femmes à l'arrière, elle aide les réfugiés, notamment belges, à trouver un emploi via des associations qu'elle monte et qu'elle supervise, et elle est faite chevalier de la Légion d'honneur en 1916 par le gouvernement de Raymond Poincaré. L'écrivaine couvre également le conflit pour la presse depuis les lignes de front où elle est autorisée à se rendre, et ses écrits marchent très très bien. Cet exercice permet au passage de consolider son style littéraire, déjà en plein essor après la publication, notamment d'un de ses plus célèbres romans, The House of Mirth, traduit en français par Chez les heureux du monde, c'était en 1905. 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Edith Wharton publie le roman qui nous intéresse aujourd'hui, The Age of Innocence. Elle est alors entièrement reconnue comme l'une des plus grandes écrivaines de son temps. Et cette reconnaissance est confirmée noir sur blanc lorsqu'elle reçoit le prix Pulitzer l'année suivante, c'était en 1921. Un long chemin a donc été parcouru entre la jeune Edith, encouragée par son père, mais dissuadée par sa mère, d'entrer dans le monde des lettres. Lucrezia, en effet, avait demandé à sa fille expressément de ne pas lire de romans avant de se marier. Drôle de vœu, mais vœu qu'Edith respecte. Une fois le divorce consommé, cela dit, eh bien, le vent tourne forcément, et c'est à elle d'écrire la fiction qu'elle aimerait lire. Et pourtant, la flamme de l'écriture était là dès le départ. Petite, Edith prend l'habitude de raconter des histoires à sa famille. Elle se promène pieds nus dans le salon et lit à haute voix toutes sortes d'aventures à ses proches. Seulement, voilà l'entourloupe, il n'y a rien sur les pages. Edith demande en fait à son père de lui donner des livres vierges. Ce qu'elle lit est écrit sur les parois de son propre esprit, autrement dit, elle invente, sans relâche et sans filet. Pour les raisons mentionnées plus tôt, ses ambitions littéraires sont malheureusement rapidement mises à l'épreuve de la « vraie vie », entre guillemets, c'est-à-dire une vie de convention qui devrait être la sienne. Un exemple, le premier poème qu'elle a publié, donc vous vous souvenez la traduction, n'apparaît même pas à son nom. C'est Edward Washburn, un ami du père d'Edith, qui prête son identité à la traductrice. Il y a de quoi décourager la jeune artiste dont la production s'essouffle après 1880 au profit de la vie conjugale. Quand Edith se remet à écrire, ses expériences dans la haute société new-yorkaise lui sont donc très précieuses. Elle a vu ce monde de près et surtout, elle en a souffert de très près. Sa plume a donc l'embarras du choix, entre sexualité réprimée, vieilles manières des vieilles familles, compétition sociale et individuelle, de nombreux thèmes littéraires s'offrent à elle. Consciente de l'époque divisée dans laquelle elle a grandi, elle s'attache à décrire, je cite, « les extrêmes et les angoisses du Gilded Age ». Ce sont ses mots. Enfin, son écriture est aussi motivée par la mémoire. Le monde change après la Première Guerre mondiale, c'est inévitable. Une historienne affirme, c'était, je cite, « comme se réveiller dans un pays et se coucher dans un autre ». Le monde qu'a connu Edith est en perte de vitesse. Cette période paradoxale et pourtant familière s'esquinte dans un monde nouveau. Le titre du roman, L'âge de l'innocence, donc, a plusieurs sens. D'abord, on peut y voir une moquerie de cette innocence forcée qu'on impose aux femmes, évidemment, mais c'est aussi peut-être un élan nostalgique. Cette drôle d'époque, pleine de prétentions, de miroirs et d'apparences, est en train d'éclater et de nouvelles angoisses remplacent les anciennes. Alors, ce roman, parlons-en. The Age of Innocence est publié à l'origine sous forme de série. Vous le savez, c'était assez commun à l'époque. On achetait un journal ou un magazine littéraire et on rentrait chez soi lire la suite du feuilleton. Entre 1899 et 1939, la revue The Pictorial Review imprime et diffuse de nombreuses histoires, dont celle d'Edith Wharton. Alors pourquoi ? Pourquoi les lecteurs revenaient-ils au kiosque pour acheter la suite ? En gros, qu'est-ce qui fait de The Age of Innocence un bon roman ? Eh bien, l'histoire incarne tout simplement toute une époque, tout un milieu. L'intrigue se déroule donc entre trois personnages principalement, rappelons-les. D'abord, il y a Newland Archer, un jeune avocat, membre d'une famille aisée new-yorkaise. Ensuite, sa promise, May Welland, une jeune débutante idéale, on l'a dit, innocente comme la rosée du matin, et pleine de bonne volonté, surtout prête à devenir tout simplement l'épouse parfaite. Enfin, Hélène Olenska, la comtesse Olenska, la cousine de May, qui revient d'Europe où elle a mis fin à sa relation avec un riche comte polonais. Incarnation du non-conformisme, elle crée des vagues partout où elle va, entraîne moult critiques, attise le mépris de certains et la jalousie d'autres. Car ce qu'elle n'a pas, comprenez un mariage lisse, un sens des conventions, eh bien, tout cela met en valeur ce qu'elle a, elle, c'est-à-dire un sens du risque, de l'authenticité et de son propre instinct de liberté. À côté de sa cousine, May est donc une sorte de peinture à l'huile, inerte et immobile, et Newland délaisse rapidement la toile pour tomber sous le charme de la très vivante comtesse Olenska. S'ensuit une terrible histoire d'amour impossible, sorte de triangle amoureux où l'un des personnages semble être étonnamment à l'ouest en la personne de May, et où les deux autres sont rongés par un désir mutuel, égalé seulement par leur attachement personnel à la rectitude morale. En d'autres termes, il est impossible pour Newland et Hélène de vivre leur amour, impossible de blesser May, qu'ils aiment quand même beaucoup. Ajoutons à cela que Madame Olenska est à la fois snobée et désirée partout où elle se rend. Comme tous les éléments disruptifs au sein d'un système autosuffisant, elle polarise tous les autres. Newland s'en fait le protecteur, un peu l'amant, mais bon, ce n'est qu'à la fin de l'intrigue qu'elle découvre véritablement l'amplitude du problème.
I never understood how dreadful people thought I was. Granny blurted it out one day. I was stupid. I never thought New York meant freedom to me. Everyone seemed so kind and glad to see me.
Dans l'extrait que vous venez d'entendre, la comtesse dit avoir été aveugle aux intentions réelles de la société new-yorkaise. En surface, on l'accueillait à bras ouverts, mais dans l'arrière-boutique, on pensait tous quelle affreuse divorcée, une honte. Le paradoxe réside dans le fait que pour elle, vivre à New York, cela voulait dire être libre. Le rapport compliqué entre l'Amérique et l'Europe, on en a parlé, est tout à fait palpable ici. Les New-Yorkais disent se réinventer, créer un nouvel ordre, et pourtant, le système de caste y est presque encore plus violent. La seule protectrice d'Hélène est en fait sa grand-mère, Mrs. Manson Mingott, sorte de matriarche de la famille de May et sa cousine, qui est très en avance sur son temps, et qui est inspirée elle-même de la grand-mère d'Edith, Mary Mason Jones, vous vous souvenez de la famille des Keeping Up with the Joneses. Enfin, pour finir sur une note un peu romanesque et romantique, quand Newland insulte pratiquement Hélène, qui lui a demandé de rester auprès de May et de ne pas divorcer pour elle, il l'accuse en retour de lui avoir montré ce qu'était la vraie vie et de lui en avoir retiré aussitôt après l'opportunité. En gros, rester marié à May revient pour lui à se laisser mourir un peu.
What about May? What about how May feels?
You're using my marriage as some victory of ours, then there's really no reason on earth why you shouldn't go back. You gave me my first glimpse of a real life, and then you told me to carry on with a false one. No one can endure that.
I'm enduring it.
Personne ne peut supporter une chose pareille, lui dit-il. Moi, je la supporte, répond-elle. Hélène fait preuve en fait d'un sens du devoir moral profond qui contraste avec la société new-yorkaise qui la rejette pourtant pour sa perdition morale, encore un paradoxe. Elle reconnaît une véritable bonté en Newland, similaire à la sienne, et donc reconnaît l'impasse dans laquelle il se trouve. Quitter May, lui faire du mal, ce serait changer le Newland qu'elle aime. Sitôt que les conditions de leur amour seront réunies, celui-ci mourra.
Don't you see, I can't love you unless I give you up.
Elle lui dit donc « Tu ne pourrais pas être heureux si tu devais te montrer cruel. » Une très jolie leçon de vie finalement. Waking up, I see that everything is okay. The first time in my life and now it's so great. Slowing down, I look around and I'm so amazed. I think about the little things that make life great. I wouldn't change a thing about it. This is the best feeling.
place so safe, not a single tear. The first time in my life and now it's so clear. Feel calm, I belong, I'm so happy here. It's so strong and now I let myself be sincere. I wouldn't change a thing about it. This is the best feeling. This innocence is brilliant. I hope that it will stay. This moment is perfect. Please don't go away. I need you now. And I'll hold on to it. Don't you let it pass you by.
Alors, j'ai parlé dans cette partie de la mère de Edith Wharton, qui était une horrible femme, selon elle. Et il y a une figure maternelle qui évoque cette femme, justement, dans The Age of Innocence, qui est la mère de May.
Oui, parce que la mère de, la mère de Newland, elle est très différente de ça. Elle est très effacée, mais en même temps très douce et très insipide. Mais c'est vrai. Mais la mère de May, elle est... Oui, tu sens le son rôle tyrannique, en fait, sa position de castratrice. Elle veut que sa fille soit une débutante, elle veut que sa fille soit parfaite, et en même temps, elle refuse qu'elle grandisse. Mais oui, c'est logique, parce que finalement, grandir, c'est prendre de l'indépendance, prendre de l'autonomie, prendre de la personnalité. Et elle veut que sa fille soit fiancée longtemps, elle veut que sa fille continue à les accompagner pendant leur voyage pour les problèmes de santé du père, etc.
L'enfer.
Sa fille doit rester une enfant.
Oui.
Et souvent, on traite les femmes comme des enfants. C'est-à-dire qu'on leur. Elles sont sous l'autorité du père, sous l'autorité du mari, et pas sous leur autorité propre, de la même façon qu'un enfant n'est pas sous son autorité propre, en fait.
Oui, exactement. Et justement, le titre The Age of Innocence
c'est ça.
Est une horrible. Enfin, une accusation de l'horrible système qui fait croire aux femmes qu'elles restent dans l'innocence et que c'est très bien.
Oui.
Et il n'y a rien de moins innocent
bien sûr.
Que de faire passer quelqu'un d'une tutelle à une autre toute sa vie.
Il y a un passage où c'est Newland qui pense à ça, en fait. C'est un passage qui est extraordinaire, où il se rend compte que sa future femme a été moulée comme la société pense qu'il la veut.
Oui.
Et donc c'est une espèce de... Elle est vide, c'est une page blanche, littéralement, où il n'a plus qu'à écrire, en fait. Et il se rend compte de la responsabilité que c'est pour lui, en fait. Et il aime May, ou il pense l'aimer, j'arrive pas trop à savoir, en fait. Mais
je pense que c'est pareil pour lui.
Finalement, c'est un peu la même chose, en fait. Penser, aimer et aimer. Mais donc, il l'aime ou il pense l'aimer parce qu'il se dit qu'elle a beau être vide, il y a du potentiel. Elle est intelligente, elle n'est pas une personne bête.
Ah non, loin de là.
Et il fait le parallèle, il dit, elle a été... c'est comme une espèce de figures faites de neige et il parle des débutantes mais en particulier de May puisque c'est la débutante parfaite avec
Bien sûr.
Grand D majuscule. Il dit c'est comme une figure faite avec de la neige qu'on donne à son mari pour qu'il puisse s'amuser à l'écraser complètement comme de la neige. Je trouve que l'image était
glaçante
quoi, et il se rend très bien compte de ça. Mais oui, c'est le rôle de la mère, en fait. Parce qu'on se rend bien compte que les pères sont complètement absents de l'éducation de leur fille. Et que c'est... May, c'est la créature de sa... Le produit de sa mère.
Oui, exactement. Oui.
Et avec toute sa douceur. Tu sais, vraiment, c'est la main de fer dans le gant de velours, quoi.
Oui, parce que... voilà,
c'est ce qu'elle veut. Hein.
On peut en parler de ça, justement. C'est que May, donc... C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que elle est tout sauf bête. Newland reconnaît son intelligence, son potentiel.
Ouais.
Il appelle ça son potentiel. Et ça, c'est quelque chose déjà en première chose, c'est que c'est encore présent dans la façon dont on voit les femmes maintenant. C'est-à-dire que une femme intelligente, on encourage tellement. Bon, plus maintenant, mais on a tendance à moins encourager les femmes à montrer leur intelligence dans bien des secteurs, que finalement, on s'attend tellement pas à ce qu'elles le soient qu'on n'arrive pas forcément à le reconnaître quand elles le sont. Ça, c'est quelque chose qui date d'il y a bien longtemps. Et justement, ces femmes-là, elles ont l'intelligence de se plier parfaitement
oui, bien sûr.
Au modèle qu'on leur a imposé. Et si on leur donnait un autre modèle, un modèle plus enthousiasmant, peut-être plus ambitieux, elles Exactement. Auraient la même intelligence de devenir ça.
Bien sûr, elles se battent avec les armes qu'elles ont. Elles trouvent oui, le ça. Pouvoir là où il est. C'est-à-dire que c'est un pouvoir caché, c'est un pouvoir qui est, en plus, qui se reproduit. C'est-à-dire que la mère de May, Augusta, elle s'appelle donc, Augusta, elle a été évidemment façonnée par sa mère comme ça.
Mais bien
et
sûr.
Elle grandit pour faire la même chose. Et elle répète, elle répète, elle répète. Mais finalement, quand tu n'as de pouvoir, quand c'est le seul pouvoir que tu as, bah, tu le prends.
Oui, bien sûr.
Tu prends ce qu'on te donne.
Et May, justement, elle est vraiment elle est intelligente parce qu'elle elle façonne... Donc, il y a tout un moment où elle se doute que oui. Newland et Hélène sont amoureux.
Elle comprend.
Voilà, elle comprend. Elle n'est pas tarte.
Elle demande... Elle dit à la fin... j'ai demandé à... Elle dit à son fils, juste sur son lit de mort, elle dit à son fils qu'elle avait demandé à Newland d'abandonner la seule chose qu'il voulait vraiment. Et Newland dit, elle ne l'a jamais fait. Elle ne lui a jamais demandé, en fait, en vrai. Elle n'a pas eu à le faire.
Oui, c'est ça. C'est un moment qui m'a énormément... Rien que de t'entendre en parler, j'ai des frissons. Ouais, ça m'avait complètement marqué à la lecture. C'est ça, c'est à la fin de sa vie.
Ouais.
Moi, c'est quelque chose qui, personnellement, m'a un petit peu fait voir... leur amour de façon différente,
c'est ça.
Leur amour, bon, voilà, leur situation,
leur entente,
leur entente de façon différente. Pour moi, justement, ça a transformé May en personnage à la fois qu'on voyait un peu au tout début innocent, ensuite oui. calculateur. Il me semble qu'il y a trois étapes, et la dernière étape, moi, ça me l'a vraiment rehumanisé.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Je me suis dit mais elle est consciente de ce qu'elle a imposé à son époux.
Oui, et elle a aussi une générosité en fait dans, une vraie générosité et un vrai pardon, c'est-à-dire qu'elle elle a accepté l'amour de son mari pour quelqu'un d'autre en fait, et elle a vu ce qu'elle pouvait faire avec ça.
Oui, voilà. Et dans la phase du milieu là, donc, que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire la phase où on la voit comme quelqu'un de froid et de manipulateur, en gros, donc quand elle se doute qu'il y a anguille sous roche entre Newland et Hélène, elle organise elle annonce trop tôt à Hélène qu'elle est enceinte. Oui. Elle sait très bien qu'Hélène va prendre peur, retourner en Europe.
Oui, et puis il va lui dire c'est pas possible. On ne peut pas vivre une histoire d'amour si ta femme est enceinte parce qu'elle a ce sens moral dont tu parlais avant et qu'il faut que les conditions soient parfaites pour que leur amour puisse fleurir, ce qui n'arrivera jamais.
Ce qui n'est pas du tout rendu possible.
Ce qui n'est jamais possible. Donc, je pense que oui, May, elle le sait très bien quand elle dit à Hélène qu'elle est enceinte. Alors même qu'elle n'est pas sûre de l'être, elle sait très bien qu'elle le fait pour ça.
Oui, c'est ça. Et c'est intéressant qu'à la lecture, on se rende compte au compte-gouttes, un peu comme Newland.
Oui.
On se rend compte en même temps que lui que sa femme n'est pas tarte.
Oui.
Et que sa femme utilise les armes qu'on lui a données, comme tu dis, et elle l'utilise finement.
Oui, parce qu'en plus, ça met le spectateur ou la spectatrice, le lecteur ou la lectrice, pour le film aussi ça marche, dans une position qui est la position de tous les hommes de cette époque et encore aujourd'hui, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on la sous-estime.
Oui, complètement.
On la sous-estime, mais et à la fin, on se dit ah, ben, je me suis fait avoir aussi.
Oui, c'est ça.
Je me suis fait avoir aussi parce qu'elle est douce, délicate. Elle n'est pas si bête, quoi.
Non,
elle n'est pas bête du tout.
Non, non, elle n'est absolument pas bête. Et en effet, c'est une petite surprise.
Mmh.
Un petit Kinder à la fin.
Ouais. Et elle est morte déjà à ce moment-là. Oh non.
Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il y a la relation donc avec... donc, Newland est amoureux d'Hélène.
Oui.
Hélène représente tout ce qui n'est pas May.
Ah bah oui, c'est le contraire.
C'est l'inverse.
La blonde, la brune. Alors c'est marrant, dans le film, c'est inversé.
Mais, c'est vrai.
Mais oui, enfin bref, c'est...
C'est vrai, parce que dans le film, c'est joué... Donc May est jouée par Winona Ryder et Hélène Olenska est jouée par... Comment s'appelle-t-elle ?
Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer. Oui, elles sont très belles toutes les deux.
Oui, elles sont merveilleuses.
Et elles jouent très très bien leur rôle toutes les deux.
Ah ouais, elles sont parfaites.
Et c'est, comment il s'appelle, Daniel Day-Lewis qui joue Newland. Bref, tout ce petit monde.
Casting ignoble.
Très réussi. Et donc cette relation, c'est intéressant parce qu'encore une fois, j'arrête pas de dire le mot paradoxe, mais il me semble que c'est très approprié. Newland tombe amoureux d'Hélène parce qu'elle est libre. Parce qu'elle est révoltée, parce qu'elle refuse plein de choses.
Mmh.
Et à la fois, du coup, il ne pourrait pas avoir une union normale avec elle.
Non.
C'est-à-dire qu'on se dit aussi un peu toujours, mais qu'est-ce qui se passerait si...
Mais bien sûr.
S'ils disaient tous les deux, bon, bah, on s'aime maintenant.
Mmh.
En fait, déjà, ça ne se passe jamais.
Non.
Et à la fin, tu te rappelles, à la fin du livre, Newland se rend à Paris sur une invitation de son fils Dallas.
Dallas, quel prénom affreux.
Ouais. Et qui est au courant que donc sa tante, par alliance, Olenska, est donc à Paris. Et Newland l'accompagne. Et Newland se demande pendant 20 minutes s'il va monter, s'il va y aller dans son appartement. Ouais. 20 minutes, que dis-je, peut-être 2 heures. Mm. Et finalement, il décide de ne pas monter. Il reste sur le banc.
Et, ouais.
Et Dallas se dit, mais enfin, papa... Il se doute que c'est ça qu'il a abandonné.
Mm. Oui. Oui, parce que c'est ça, la confession de la mère, ce sont les morts, c'était à lui,
c'était à Dallas. C'était à Dallas, voilà. Maid dit à Dallas, ton père a abandonné ce qu'il aimait pour moi. Et Dallas, je pense, voilà, a hérité l'intelligence de sa mère et se dit, c'est sans doute Madame Olenska. Mm. Et il lui demande, mais pourquoi tu n'es pas monté, papa? Mm. Et son père, Newland, qui est vieux maintenant, lui répond, mon amour est plus réel maintenant si je reste sur le banc que si je montais confronter cette femme. Mm. Et ça, pour moi aussi, c'est extrêmement... Bon, beau déjà, et extrêmement symptomatique de la relation fantasmée qui ça, ne sera que ça.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est le genre d'histoire où on se dit, en fait, pour que ça soit... ça ne peut pas advenir, en fait.
C'est exactement ça.
Ça ne peut pas advenir.
Ça ne pourra jamais advenir.
Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils aiment des idéaux en eux et une histoire d'amour réelle... avec tout ce que ça comporte, ça ne marcherait pas.
Et ça me fait penser, dans une certaine mesure, à la princesse de Clèves, qui a marqué beaucoup de gens qui ont fait des prépas, je crois.
Oui, oui.
dans lequel, en fait, c'est un roman dans lequel donc, la princesse de Clèves est amoureuse du duc de Nemours, lui aussi, et elle se retire à la fin dans un couvent, pour toujours. Et à la lecture, ça fend le cœur. On se dit, mais enfin, reste. Ouais. Il t'aime, tu l'aimes.
Ouais. Vous êtes libre, tu es libre, vous êtes marié mort.
Et voilà, vous êtes libre. Et en fait, elle se retire dans le couvent. Et c'est... Au début, c'est choquant. Et à la fin, ça apparaît peut-être de façon tordue, mais comme la plus belle preuve de préservation de l'amour. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais touché, cet amour. Donc, il sera toujours intact.
Il est intact, oui. Il est pur.
Mmh. Il est pur. Et à la fois, il existe. Enfin, il n'est pas vraiment vrai.
Oui, bien sûr.
Ça me fait penser, du coup, aussi à... Je parle un peu en monologue, mais... à Aragorn et Arwen. Oui, chaque émission comporte une mention du Seigneur des Anneaux.
Donc c'est donc ding ding ding, c'est la mention c'est Seigneur, le des
moment, Seigneur des Anneaux.
Notre sponsor.
Sponsorisé, oh, ça serait top. Sponsorisé par Tolkien, officiellement. Quand le père d'Arwen demande à Arwen de partir vers les rives immortelles des elfes, il l'explique à Aragorn, oui, tu ne la verras plus jamais, mais son amour pour toi restera intact jusqu'à la fin des temps. Mm. Et Aragorn répond, plein de sagesse, mais il ne sera qu'un souvenir.
Oui.
Donc voilà, le paradoxe dans lequel se trouvent embourbés Newland et Elaine, dont l'amour ne pourra jamais
advenir.
Voilà.